L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui reprend le train en marche. On aime le rail sur cette radio. On croit aux lignes transversales et aux petites lignes, à celles qui jusqu'à présent étaient plutôt oubliées des radars et il n'y en avait que pour le TGV. Depuis 100 ans, on a supprimé en France 40 000 km de lignes ferroviaires. Or, le vent semble avoir tourné ou semble être en train de tourner. On dirait bien que l'État s'intéresse de nouveau aux trains, notamment les trains de nuit dont il ne reste en circulation que 2 lignes en France. Mais il paraît que ça ne va pas durer. On a déjà fait le point lors d'une précédente émission sur les avantages du train de nuit. Donc, nous retrouvons notre délégué Bretagne de l'association Oui au train de nuit. Comme il est géographe et urbaniste, il peut nous parler du train en général, pas seulement de nuit, et de ce qu'on pourrait espérer dans les prochaines années du côté du chemin de fer. Bonjour Yoann Leclèche.
Bonjour.
Alors, on en sait un peu plus, mais en fait, on n'en sait pas tant que ça. Le gouvernement français devait sortir un rapport sur les trains. Il n'est pas sorti, mais il y a eu des fuites, c'est ça? Qu'est-ce qu'on sait alors?
Alors, il y a eu des fuites, effectivement. Donc, il n'est pas sorti. On l'attend. Nous, on l'attend depuis l'été dernier. Donc, ils ont profité de la crise du Covid et puis des nouvelles tendances pour affiner leurs propositions. A priori, on irait vers 10 lignes nationales à horizon 2030. Nous, on espère plus. Donc, 10 lignes de train de nuit, puis 3, 4, 5 lignes de train de jour en supplémentaire, dont Nantes-Rouen-Lille.
Et il y a quand même, sur le site du ministère de la Transition écologique, un dossier sur les trains d'équilibre de territoire. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un bon signe ou...
Alors oui, après, il faut savoir que les trains d'équilibre du territoire, en fait, c'est l'équivalent des TER pour l'État. Donc, c'est des lignes que l'État confie à des exploitants, donc en l'occurrence la SNCF, pour aménager le territoire, donc pour relier deux métropoles qui ne seraient pas reliées par TGV ou tout simplement pour désenclaver certains territoires ruraux, notamment le Massif central. Donc on va avoir typiquement le Paris-Toulouse via Brive ou le Paris Clermont-Ferrand. Donc des lignes de jour et puis des lignes de nuit, donc le Paris-Rodez, la Tour de Carole et puis le Paris-Briançon. Et donc à partir de tout prochainement, en fait, d'avril, il y aura une nouvelle ligne de train de nuit Paris-Nice et à partir normalement de...
Donc ça sera la troisième ligne, c'est ça ?
Ce sera la troisième.
Bon.
Et il y aura une quatrième en décembre normalement qui sera Paris-Tarbes.
Et le Paris-Nice, ça sera une ligne quand même quotidienne ou plutôt de week-end,
enfin... Non, quotidienne. Après, il faut savoir que Paris et Nice, c'est quand même des distances qui sont très importantes, donc des durées de train très importantes aussi. Et après, entre Marseille et Nice, il n'y a pas de LGV, donc ça multiplie les distances, ça multiplie la durée des trajets. Donc le train de nuit est vraiment rentable au niveau déjà de l'entreprise et au niveau des personnes là-dessus. Et il faut savoir que normalement, cette ligne-là aurait dû reprendre dès cette année par un exploitant privé. Donc au niveau de la rentabilité financière de la ligne, il n'y a même pas photo. On n'est pas sur les mêmes logiques que les autres où l'État vraiment pallie aux carences, à l'absence d'autoroute, à l'absence de TGV.
D'accord, c'est pas forcément de l'aménagement du territoire, mais c'est, enfin, c'en est, mais c'est aussi pour gagner de l'argent un peu quand même.
C'en est, mais pas que. Donc, on va dire que cette ligne-là, il n'y a pas forcément un budget monstrueux, si ce n'est qu'il faut, il faut le matériel qui avait été détruit, donc il faut en l'occurrence le rénover. Donc là, actuellement, les voitures sont en train d'être rénovées dans l'Aisne, à Ternier et surtout à Périgueux, donc une ville de 30 000 habitants en Dordogne. Et à Périgueux, c'est quasiment 1000 emplois pour 30 000 habitants grâce à la rénovation des différentes voitures de train de nuit. Donc, des deux lignes en projection et puis des deux lignes actuelles.
Ah oui, ça veut dire que quand on remet en service une ligne de train de nuit pour l'instant, on ne part pas sur du neuf, mais on recycle.
Alors, le problème, c'est que le train de nuit actuellement, enfin, le problème ou l'avantage, c'est que le train de nuit actuellement est vraiment dans une dynamique positive en Europe. Donc, du matériel neuf, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, Siemens, notamment, en produit. mais n'arrive pas à suivre la demande, notamment des EBB autrichiens, qui sont vraiment les pilotes, les moteurs européens.
Qu'est-ce que c'est, les EBB autrichiens?
C'est l'équivalent de la SNCF en Autriche.
Alors, ça nous amène justement à un autre point de cette histoire des trains de nuit, c'est qu'en Europe, en effet, il y a eu des nouvelles lignes qui ont vraiment été ouvertes. Hein. Lesquelles déjà?
Alors, lesquelles, c'est un peu difficile à dire, tellement il y en a qui ouvrent en Allemagne ou en République tchèque ou en Autriche, ou sous l'impulsion de ces trois pays-là. Donc, que ce soit des compagnies publiques, les EBB ou privées, hein, puisque en République tchèque, c'est des compagnies privées sur leurs fonds propres qui lancent des lignes de train de nuit, notamment en destination des stations balnéaires. Après, je parlais de Flixtrain. Flixtrain était associé à une compagnie allemande qui lance aussi ses propres trains de nuit, donc vers les stations de sport d'hiver l'hiver, et puis vers la mer Baltique l'été. Donc on est sur des dynamiques positives. Après, là, j'ai envie de dire que le développement en Europe de l'Ouest se fait plutôt autour de Bruxelles. Donc il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a eu Vienne-Bruxelles et Innsbruck-Bruxelles. Il y a Vienne-Amsterdam qui a été lancé en décembre dernier. Et puis là, il est question de lancer Prague et Varsovie-Bruxelles et puis Malmö-Bruxelles.
Ah oui, donc c'est quand même des lignes internationales, c'est pas seulement des lignes nationales intra-allemandes ou intra-autrichiennes, quoi.
Alors en fait, en France, c'est possible d'avoir des lignes intranationales, en France, en Espagne, en Italie. Mais en Europe centrale, en Europe de l'Est, on est sur des distances quand même plus faibles pour aller d'un bout à l'autre d'un pays. Donc on a vite fait de passer les frontières du pays. Et puis le train de nuit, comme n'importe quel moyen de transport, est plus pertinent s'il relie deux métropoles. Et souvent, il y a une métropole près de la frontière, Bruxelles ou Amsterdam, par exemple, et tout près de la frontière allemande. Et inversement, Hambourg, près de la frontière hollandaise.
On a vaguement évoqué l'Ouest, mais il y a aussi l'Ouest de la France. Et on a l'impression que dans toutes ces cartes qui sortent dans les médias, là, il y a un gros blanc au niveau de la Bretagne, alors que bah justement, on est un territoire éloigné par définition. Ça pourrait être intéressant, les trains de nuit pour nous, non?
Alors, tout à fait, et d'autant plus que là, les liaisons aériennes entre Lyon et Lorient sont menacées, voire condamnées, que l'aéroport de Quimper est aussi dans une situation difficile. Donc le train de nuit, pour nous, est tout à fait pertinent. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Ouest, on n'est pas un endroit de passage, par définition. Donc forcément, on ne va pas avoir tout ce qui est trafic de transit. Donc nos lignes seront forcément, sera forcément un terminal. Après, Jean-Baptiste Djebbari évoquait...
est le secrétaire d'État au transport. Non, le ministre des Transports.
Évoquait une organisation des futurs trains de nuit sur quatre corridors. Donc concrètement, la France serait divisée en quatre secteurs où les trains rouleraient la nuit sans s'arrêter. Et l'un de ces secteurs relierait, donc en le citant, hein, Lyon à Tours et ensuite vers la Bretagne. Mm-hmm. Donc, dans les propos ministériels, du moins, nous ne sommes pas oubliés. Et après, il faut savoir que la région Bretagne est quand même l'une des rares de France, surtout dans ses anciennes versions, a exprimé quand même son intérêt pour le train de nuit.
Mmh. Oui, parce que de toute façon, si l'Allemagne fait des trains, ne serait-ce que l'été, pour ses stations balnéaires, pourquoi pas la France, vers ses stations atlantiques, on va dire, même pas forcément que la Bretagne, d'ailleurs.
Oui, alors c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable. Et alors, nous, au train de nuit, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce que le ministère prône pour le moment. Paris-Tarbes, que j'évoquais tout à l'heure, serait prolongé jusqu'à Hendaye, donc Biarritz, hein. L'été. Après, effectivement, c'est un classique, hein, les trains de nuit qui vont jusqu'aux stations balnéaires. Il y avait du Lyon-Dinard dans le temps, et puis l'hiver, du Brest-Briançon, du Brest-Pour-Saint-Maurice, ou tout simplement...
Du Lyon-Quimper, il y en avait.
Du Lyon-Quimper. Alors, Lyon-Quimper, c'était deux villes, donc c'était un peu différent. Oui. Mais les trains de nuit vers Lourdes, c'était quelque chose de classique aussi. Donc là, c'est pas du tourisme, mais ça reste du saisonnier. Mais après, nous, vraiment, on est sur une démarche de relier vraiment les territoires entre eux et, si possible, 7 jours sur 7 et 52 semaines par an.
Il y a quand même quelque chose qui semble avoir été oublié, c'est la liaison entre la Bretagne et le sud-ouest, c'est-à-dire des liaisons qui ne passent pas par Paris du tout, même pas par le centre, en fait.
Alors, effectivement, il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande et on le voit par la fréquentation des aéroports, hein, puisque si on prend Brest-Barcelone, par exemple, c'est une grosse liaison aérienne, Brest-Toulouse aussi, Brest-Bordeaux. Donc effectivement, pour le moment, l'État n'a pas communiqué en cette faveur et nous, on souhaite vraiment pouvoir, et via Tours, relier l'Ouest, donc la Bretagne et la Normandie, vers le sud-ouest, que ce soit Bordeaux, Toulouse ou même Montpellier et Barcelone.
Qu'est-ce qui favorise quand même ce redémarrage, ce réveil du train de nuit ?
Alors, je crois que Jean-Baptiste Djebbari l'a bien résumé dans ses propos. Il y a la honte de prendre l'avion, tout simplement. Et puis, il y a un côté pratique au train de nuit, c'est tout simplement économique. Le train de nuit, ça permet d'économiser une nuit d'hôtel. Et en temps de crise, on va dire, c'est déjà ça de prix. Parce que si vous prenez tout simplement, là, vous regardez, vous allez sur WeSNCF hein, ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous regardez, vous comparez Paris-Toulouse en train de nuit et Paris-Toulouse en avion plus hôtel, même en dernière minute, même via EasyJet, le train de nuit sera plus compétitif qu'un hôtel low cost plus l'avion et vous fait économiser une nuit. Donc, en termes pratiques, il n'y a pas photo, le train de nuit est bien plus intéressant et bien plus rentable que l'avion plus hôtel. Et puis après, il y a surtout toutes les nouvelles tendances écologiques, notamment la honte de prendre l'avion qui est matérialisée au niveau international par des personnes comme Greta Thunberg.
Et le bilan carbone du train qui est meilleur, donc, de toute façon.
Qui est largement meilleur.
Ouais. On sait combien ? De combien ? On a fait un comparatif comme ça
Alors, il y a des comparatifs, c'est assez difficile d'estimer parce que ça va dépendre des trains, ça va dépendre des avions.
Plus sur un trajet, par exemple.
On va être de l'ordre de 20 à 36 fois plus intéressant au niveau écologique, le train, que l'avion.
Ah ouais, c'est énorme, en effet.
C'est énorme, et puis... Et puis ce qu'il y a, c'est qu'un train de nuit peut relier par exemple Rosporden à Lyon ou Rosporden à une petite ville, à Villefranche-sur-Saône, là où un avion va polluer pareil, qui relie une petite ville à une autre petite ville ou deux métropoles. Donc l'avion, le train de nuit, s'il s'arrête partout, il peut faire des en saut de puce, ramasser plein de personnes en différents points. Là où un avion ne pourrait pas, serait obligé de décoller plusieurs fois et polluerait d'autant plus.
C'est ça, ouais, parce que l'avion et les sauts de puce, ça ne va pas trop, hein, c'est sûr. Il n'y a pas d'aéroport à Rosporden, pas qu'on sache en tout cas.
Pas à ma connaissance, mais bon.
D'accord. Et alors, par contre, on se dit, bon, alors le train de nuit, donc là, apparemment, il y a des problèmes de construction des rames. Bon, très bien. On recycle des rames, pourquoi pas. Mais déjà, jusqu'à quel point c'est faisable, ce recyclage de rames? Et puis, est-ce qu'elles sont quand même confortables? Est-ce qu'elles ne sont pas dangereuses? Enfin, on peut se poser des questions là-dessus.
De façon générale, les trains et puis les véhicules de transport sont tous prévus pour être recyclés au moins une fois. Dans de général, du ferroviaire, c'est tous les 20 ans une deuxième vie. Donc c'est vraiment une deuxième vie. Et c'est pour ça que j'évoquais un nombre d'emplois impactés à Périgueux très important. Parce qu'en fait, c'est la même voiture, c'est la même voiture couchette. Mais entre celle qui rentre au technicentre de Périgueux et celle qui en sort, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est effectivement le même aspect, ça va être éventuellement le même matériel technique, quoique, mais c'est des voitures qui sont vraiment désossées, toutes les pièces qui sont éventuellement remplacées, et puis des améliorations concrètes qui sont apportées, par exemple le Wi-Fi, ou par exemple tout ce qui est électronique qui est refait dans ces voitures-là. Et après, en termes de confort, ça, je ne peux pas en parler avant d'avoir vu le résultat, mais de façon générale, en Europe, on est sur des trains très confortables. Donc que ce soit les Russes, que ce soit les Autrichiens ou les Finlandais qui ont communiqué là-dessus dernièrement, on est vraiment sur le principe du train-hôtel, donc qui va reprendre l'appellation espagnole « train-hôtel hein, », qui parle d'elle-même. Donc on est vraiment sur un confort assez important et des nuits qui vont être aussi bonnes, voire meilleures que dans la plupart des hôtels.
Parce que ça veut dire qu'on par exemple, le problème du train de nuit, c'est plutôt le côté collectif, un peu dortoir, on est assise dans un compartiment. Est-ce que là, ça veut dire qu'on transforme ces nouvelles voitures avec son petit compartiment pour chacun? Ou comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, c'est possible déjà de privatiser un compartiment avec les trains actuels. Ça,
ouais,
y
mais
y
bon,
a
là,
pas
on
n'y
gagne pas beaucoup de place. Quoi.
Mais donc, Jean-Baptiste Djebbari, ce qu'il disait, c'est que lui, il voulait un système en fait de puces magnétiques comme dans les hôtels, n'importe quel hôtel en fait. Donc a priori on irait vers là. Moi j'ai pas vu le résultat donc je peux pas me prononcer sur ce qui a été fait, mais c'est ce qui se fait un petit peu partout et c'est ce qui a contribué aussi au relatif succès des trains de nuit autrichiens pendant la pandémie. Le fait que justement on pouvait voyager tout seul, s'isoler vraiment, ce qui n'était pas possible en train de jour ou en avion. Donc le train de nuit, les trains de nuit autrichiens, les Nightjet, ont relativement bien résisté pendant les grands confinements du printemps dernier, grâce à des questions finalement de sécurité sanitaire.
Et puis, il y a peut-être des questions de sécurité alors, plus générales, comme par exemple ce qui se faisait déjà, hein, les femmes qui peuvent voyager seules dans des compartiments spéciaux, etc. Enfin, ce genre d'options, ça existe, quoi.
Il y a trois grosses options en fait, qui ont été mises. Effectivement, il y a le fait... en France, c'est certaines voitures qui sont réservées aux femmes. En Espagne, par exemple, c'est pas mixte, donc c'est même pas une question de réserver, pas réserver.
Enfin, on peut pas voyager en famille, quoi.
Si, mais à condition de réserver un compartiment entier. Et ce qui est intéressant, pas, hein, si on est deux ou quatre.
Oui, tout à fait.
Après, il y a un personnel navigant, donc à bord des trains, qui a été augmenté aussi. Et puis, de façon générale, pour protéger notamment les femmes seules, le nombre d'arrêts la nuit a été limité. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que les arrêts techniques. Donc par exemple, un changement de locomotive, un changement de conducteur ou une division d'un train ou de rames.
Et il y a d'autres services, sinon, intéressants qui ont été mis en place dans les trains de nuit européens, je ne sais pas, qui pourraient nous inspirer.
Tout ce qui est restauration, petit déjeuner, par exemple, hein, tout simplement. Après, je parlais du Wi-Fi tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui peut nous paraître évident aujourd'hui. Mais qui reste à faire. Donc vraiment au niveau confort, oui, il y a beaucoup de il y a vraiment beaucoup de marge de progression.
Même la suspension des voitures, enfin je veux dire, si c'est pour être secoué ça s'est amélioré, non?
Mais tout le matériel en fait, ouais. J'ai envie de dire tout le matériel récent de Siemens ou des autres est bien plus confortable que le matériel ancien. C'est Nightjet, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est rapide, c'est de nuit, mais train hôtel espagnol, ça veut aussi bien dire ce que ça veut dire, et vous prenez les compartiments de base avec 4 personnes, 4 couchettes par compartiment, vous avez la brosse à dents, vous avez la bouteille d'eau, vous avez le nécessaire de toilette, vous avez le lavabo, etc. Et puis donc ça m'emmène sur le dernier point, il y a le côté hygiène aussi dans les trains de nuit. Et donc, la question des douches, la question des lavabos, des toilettes, etc., c'est quelque chose qui est aussi en grande amélioration et qui est en amélioration, notamment parce que la clientèle des trains de nuit, et c'est un fait important sur lequel on n'insiste pas assez et qui souffre de préjugés, en fait, la clientèle des trains de nuit est plutôt une clientèle de cadres et de personnes qui voyagent pour affaires, pour aller d'une métropole à une autre. On n'est plus sur la clientèle du vieux routard ou du militaire. On est vraiment sur des personnes modernes avec des exigences fortes, notamment en termes de qualité de service.
Ouais, mais il ne faudrait pas que ça devienne non plus trop élitiste et inabordable pour le commun des mortels.
Non, alors on n'est pas sur les trains de luxe style Orient Express. On est d'accord. Vraiment sur des trains pour tous. Et puis, j'ai envie de dire, même les tarifs des moyens des trains de nuit restent bien plus avantageux que l'avion plus hôtel. On est sur du populaire. Et après, il y a toujours les solutions type siège inclinable ou autre qui permettent de voyager pour pas cher du tout. Bon, après, les nuits sont forcément moins bonnes. Mais ça permet aussi de voyager de façon économique et de dormir au moins un peu.
On a parlé des rénovations de rames, mais il y a des constructeurs qui se lancent dans la construction de nouvelles rames, du coup, de trains de nuit, enfin spécifiques, je suppose.
Alors, je lisais hier Rycop, un rapport de Rycop, qui est un transporteur alternatif et coopératif. Il citait quatre constructeurs potentiels pour la construction de ces futurs véhicules qui, a priori, seraient destinés à faire des trains de nuit. Donc je ne vais pas
les citer tous,
mais il y a un Italien, semble-t-il, il y a Siemens, ça c'est sûr. CAF, qui est un constructeur espagnol, mais qui a beaucoup d'usines en France, notamment dans les Pyrénées, a priori serait à même d'en faire aussi, et il me semble qu'ils en ont fait pour les trains de nuit anglais. Et il y en a un quatrième dont j'ai oublié le nom, mais il y en a au moins quatre en Europe qui seraient à même de le faire. Et de toute façon, enfin, les Autrichiens et les Russes ont une telle demande en termes de matériel que l'ensemble des constructeurs va être obligé de proposer une offre ou du moins de trouver les marchés qui lui permettent de laisser l'offre à d'autres et de se spécialiser sur d'autres créneaux. Sachant que la grande vitesse n'est plus non plus forcément un moteur pour les constructeurs. Parce que là, on a encore l'Espagne qui continue à inaugurer des lignes à grande vitesse, mais c'est à peu près les seules.
On passe enfin à la lenteur. Et puis alors, il y a une chose, c'est-à-dire que la libéralisation du transport de passagers, C'est, finalement, c'est aussi une chance pour ce type de service nouveau. On a mentionné RAICOP, il y en a d'autres. Enfin, RAICOP, déjà, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que c'est comme type d'opérateur de...
Alors, RAICOP, en fait, c'est un opérateur qui est basé dans le Lot. Donc, ça a son importance, parce que le Lot, ce n'est pas une métropole. Hein, c'est Cahors, c'est Figeac, on n'est pas sur des grosses villes. On est sur des territoires avec des forts enjeux en termes d'aménagement du territoire. Et donc, c'est des personnes, notamment Nicolas de Bézieux et Alexandra de Bézieux, qui ont décidé finalement d'agir pour leur territoire et d'agir de façon générale pour les territoires. Et donc, l'idée de RAICOP, c'est vraiment d'être une coopérative, donc avec des sociétaires qui vont être publics, qui vont être privés. Donc, n'importe qui, vous, moi, pouvez être...
Donc, c'est une SIC plutôt, une société coopérative d'intérêt collectif ? C'est pas une SCOP ?
Je veux pas dire de bêtises, mais c'est une coopérative, en tout cas.
D'accord. Ouais, ça serait plutôt une SIC, d'après
et
ce que vous dites.
Les parts sont à... l'entrée, c'est 100 euros, donc c'est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde d'être sociétaire. Et il y a beaucoup de collectivités locales qui prennent des parts dans la compagnie. Et alors, RAICOP, ils sont sur plusieurs marchés. Donc leur marché, on va dire, phare, celui qui leur donne de la grosse visibilité, c'est la réouverture de Bordeaux-Lyon. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Bordeaux-Lyon en train, c'est compliqué. Et plus que Bordeaux-Lyon, ça permet aussi de désenclaver tout le Massif central, tout le Limousin. Donc c'est, en termes d'aménagement du territoire, c'est énorme. Et leur deuxième marché, ça va être le fret. Et ils vont commencer bientôt à exploiter une ligne dans le sud-ouest, dans le secteur de Figeac.
Et comment ils font ? Parce qu'on ne s'improvise pas. Enfin, créer une compagnie ferroviaire comme ça, c'est pas rien. Donc, c'est des gens, des anciens de la SNCF, déjà, je suppose. Enfin, c'est...
Alors non, pas du tout.
Ah bon ?
Pas du tout. C'est des citoyens comme vous et moi qui pourraient dire, voilà, on lance une coopérative ferroviaire pour exploiter des trains entre Saint-Brieuc et Auray, par exemple, pour prendre un enjeu actuel en Bretagne. Et c'est des personnes... Alors, effectivement, on ne s'improvise pas cheminots, etc. Et ils vont recruter des cheminots. Ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais justement, c'est des procédures lentes. C'est quand même, vous disiez tout à l'heure, l'éloge de la lenteur. C'est des procédures administratives, techniques, complexes, qui prennent du temps et qui, du coup, permettent de prendre le temps de bien construire un beau projet. Et leur projet, ça reste un beau projet. Et ils ne vont pas se disperser. Bordeaux-Lyon, c'est une ligne... a priori, il y a un potentiel. On est quand même sur deux des principales métropoles françaises. Donc,
ils peuvent quand même gagner de l'argent. Enfin, parce que le truc, c'est quand même pas qu'ils perdent trop d'argent. Sinon, ils vont...
Gagner, pas forcément, mais pas en perdre.
Ouais,
puisque c'est une coopérative, ils n'ont pas vocation à gagner de l'argent au-delà de ce qu'il faut pour entretenir le matériel, payer l'ensemble des frais liés au fonctionnement du réseau et puis payer les salaires, bien entendu. Après, on est sur des enjeux d'aménagement du territoire tellement forts que même si le projet n'était pas forcément totalement viable, on va dire viable à 98 ou 99%, les collectivités locales auraient tout intérêt à financer le léger déficit. Donc on est vraiment sur un projet d'aménagement du territoire fort et qui s'appuie sur différentes expertises, différentes expériences et qui normalement a toutes ses chances de réussir. Alors, on a des projets qui ont échoué en France liés à la libéralisation. Je parlais tout à l'heure de Flixtrain. Flixtrain, il projetait d'exploiter plusieurs lignes de train entre Paris et Nice, par exemple, en train de nuit, mais pas que, entre Paris et Bruxelles aussi. Flixtrain n'avait pas les reins assez solides, on va dire, pour mener à bien ce projet-là. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont une volonté de rentabilité forte et que, pandémie n'aidant pas, ils ont été obligés de renoncer et pas d'ajourner leur projet. On a Tello qui était une joint venture de Veolia et puis des chemins de fer italiens. Bon, c'est pas le succès escompté, on va dire ça comme ça.
Justement, Veolia, ça c'était un pionnier avant même la libéralisation. On a eu une ligne, enfin on l'a toujours, hein, en Bretagne, privée. Ça marche bien, enfin elle marche bien, c'est une petite ligne quoi. C'est quoi, c'est Carré-Guingamp,
c'est ça ? Carré-Guingamp et Guingamp-Paimpol. Après, Veolia exploite pour le compte de la région, donc
ils sont aidés.
Ils ont pas de l'enjeu financier va pas être le même, on va dire. Mais après, Veolia, RATP, qui est un gros acteur du ferroviaire en France, ou la SNCF, vont exploiter sous différents statuts différentes lignes. C'est le TGV, par exemple, n'est pas un train d'aménagement du territoire, sauf entre Rennes et Brest et Rennes et Quimper, qui est une particularité un peu bretonne, puisque la région fait en sorte que ces TGV soient certains TGV soient des espèces de TER. Mais de façon générale, il y a différents statuts dans le rail en France. Et Veolia, en fait, Veolia, sur cette ligne-là, a pris le relais des chemins de fer du réseau breton, donc qui rayonnait autour de Carhaix sur l'ensemble du centre-Bretagne. Et c'est l'héritier, en fait, des chemins de fer non nationalisés, mais qui rentrent dans un cadre régional. Et on a en France un opérateur qui, on va dire, est peut-être plus intéressant que Veolia, parce que Veolia, ils savent faire. Et à l'étranger, ils exploitent des trains de façon classique. On a RD13. Donc RD13, c'est quoi ? C'est les anciens chemins de fer des Bouches-du-Rhône, qui, comme dans tous les départements, ont disparu, sont transformés en régie de car, ou plutôt ont été laissés en régie de car, donc comme en Ille-et-Vilaine, hein, où il y a une régie publique de transport de car. Et donc les différentes lois de décentralisation aidant, le département des Bouches-du-Rhône a perdu sa compétence transport, et aujourd'hui c'est la métropole Aix-Marseille qui on va dire gère la RD13, et la RD13 exploite déjà une ligne de chemin de fer de fret, et va prochainement en exploiter une deuxième, et à fort cadencement, et avec une finalité, on va dire, locale. Donc sur le principe des opérateurs ferroviaires de proximité...
Il y en a quoi, déjà ?
Il y en a. Après, c'est plutôt dans les ports que ça se développe, les OPF, les OFP, pardon. Mais les Bouches-du-Rhône sont pionniers en la matière, et les Bouches-du-Rhône ont, on va dire, une dynamique positive assez forte.
Bon, eh ben on va être obligé de s'arrêter là, alors qu'il y aurait encore beaucoup à dire, notamment est-ce qu'on pourrait inventer un rail-cop en Bretagne, mais ça on y reviendra plus tard. Alors, merci Yvan Leclèche, à bientôt.
Merci, à bientôt.